things I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Art plastique.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Sally Bonne, Sarah Hélermeyer et Christophe Rioux pour parler ensemble de l'exposition de Peter Hujar, Speed of Life, au Jeu de Paume. Exposition Marion Semama et David Wojnarowicz à la New Gallery sous le titre « I wake up every morning in this killing machine called America ». L'œil et la nuit, exposition thématique à l'Institut des cultures d'Islam. Et puis il y aura un coup de cœur de Christophe Rioux pour figure d'artiste. C'est à la Petite Galerie Louvre. Nous ouvrons donc cette dispute avec Speed of Life, exposition des travaux de Peter Hujar, à voir au Jeu de Paume. Les commissaires en sont Joel Smith, Richard Menschel et Quentin Bajac. Peter Hujar est né en 1934, il est mort en 1987. Des suites d'une pneumonie liée au sida. Il n'avait que 11 ans quand il a pris ses premières photographies. Il a ensuite suivi la formation de la High School of Art and Design de Manhattan avant de débuter une carrière dans les années 60 dans le monde de la mode et de la publicité, ce qui n'a pas empêché de développer ensuite un travail personnel dont la série peut-être la plus connue reste Portraits in Life and Death, dont le livre sorti en 76 est préfacé par Susan Sontag. On trouvera d'ailleurs plusieurs clichés de cette série dans l'exposition du Jeu de Paume. Une exposition où l'on verra aussi, portraituré, David Wojnarowicz, autre artiste de cette même scène new-yorkaise dont nous parlerons plus tard dans cette émission et qui était un très proche de Peter Hujar.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo.
Walk on the Wild Side, où on a entendu parler de Candy Darling, on entendra parler de Jackie Curtis, qui sont dans cette exposition Peter Hujar, puisque c'était parmi les membres de la Factory d'Andy Warhol. Et c'est à propos de cette bande, de cette communauté très large, que Lou Reed avait composé et écrit ce morceau, pour qui l'ignorerait. Un premier tour de rapide de table sur cette exposition, Christophe.
Une figure de l'underground qui gagne à être connue.
Sally.
Cette exposition du travail du Jard démontre avec justesse et intensité que l'art prime sur la vie.
Et Sarah.
Une très belle exposition, une découverte importante en ce qui me concerne.
Découverte, on y reviendra. Christophe Rioux, pour commencer, peut-être à y voir encore un peu plus clair, le parcours de l'exposition, c'est parti pris, il y a beaucoup de choses.
Oui.
C'est plutôt une description synthétique que je vous demande dans un premier temps.
Oui, oui, c'est très riche. À l'entrée de l'exposition, on est accueilli par quatre screen tests des courts portraits filmés d'Andy Warhol, projetés au ralenti. Et là, on découvre la bête, on découvre Peter Hujar, magnétique, qui pose d'emblée sa relation ambivalente à la notoriété, à la reconnaissance. En fait, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous prévient, on nous dit ce n'est pas le plus connu, mais il a fait partie de la bande à sa façon. Mmh. Et le parcours se déploie ensuite de façon chronologique et thématique, avec une première partie d'exposition consacrée au début de Peter Hujar, Bon, alors il y a par exemple un portrait sur fond blanc de Daisy Aldan, son ancienne professeure de lettres au lycée, qui l'a encouragée.
Des très importante, oui, dans son
très très importante. Des photos d'un voyage en Italie, avec un point essentiel qui est la présence des catacombes. De Palerme, et on les retrouvera d'ailleurs à la fin de l'exposition comme une clôture, donc on verra ce lien. Il a évidemment une vie également d'assistant auprès de plusieurs photographes commerciaux. On sent qu'il hésite, en fait il se cherche entre photographie commerciale et mode, il cherche sa voie, et dans la deuxième partie on commence à voir les portraits apparaître. Ce sont les rencontres, donc c'est une époque assez incroyable, des portraits de foule, des portraits de groupe, magnifique, des inconnus et des personnalités, alors Suzanne Sontag, William Burroughs, beaucoup de personnalités qui appartiennent à la scène underground dans toute sa diversité, et il les capte, il les happe avec un certain classicisme et une forme de simplicité, en noir et blanc, un noir et blanc efficace, qui tire vers le gris parfois, presque 50 nuances de gris. On a vraiment l'impression que il est influencé aussi par l'esthétique punk des années 70, par le transformisme, par l'esthétique drag queen, et par cette idée de brouillage des genres, ce qu'on peut appeler le genderfuck. Et donc, ça nous mène aussi à une troisième partie, à New York. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que l'horizontalité des portraits, parce qu'on est très très allongé dans cette exposition, est confrontée à la verticalité de la ville, au gratte-ciel, à downtown, délabré, et on voit ce New York poétique qui est confronté aussi à l'évolution des États-Unis de l'époque. Et la quatrième partie, on y glisse très naturellement, les corps. Alors là, une explosion de corps, de chair, des nouveau-nés, des mourants, des corps nus, des corps visages qui peuvent être le révélateur d'une intériorité profonde, des corps jeunes, vieux, contorsionnés. Alors il y a des contorsions incroyables dans cette exposition, des corps malades.
N'essayez pas chez vous, c'est le conseil.
Oui, parce que
il y en a certaines.
Gary Schneider, par exemple, on cherche encore à comprendre. Des cicatrices, des tatouages, des corps modifiés par la grossesse, l'excitation sexuelle. Et là, on sent qu'il y a quelque chose de polysensoriel. On sent qu'il veut qu'on les touche, ces photos, qu'on les sente. Mais quand je dis sente, c'est olfactivement, j'entends. Et la dernière partie, elle, c'est l'ultime exposition de Peter Hujar à la galerie Gretty Mansion. Il avait souhaité regrouper 70 photographies en supprimant toute répétition. Et donc, on comprend peu à peu qu'il élabore une grammaire photographique dans ce choix, dans cette sélection, une sorte de kaléidoscope testamentaire. Et c'est là que le film qui clôt l'exposition est très intéressant, parce que ce livre qu'on a cité, qui est le seul livre de sa vie, préfacé par Suzanne Sontag, là aussi on voit apparaître les catacombes, on voit les capucins de Palerme, comme au début de l'exposition. Et donc, la boucle est bouclée.
Sally Bonne, quoique souffrante ce soir, hein, on excusera et on plaindra ces petites quintes de toux qui surgiront de ci, de là. Sally, sur Peter Hujar.
Alors, très belle exposition. Christophe l'a évoqué, ce sont principalement des portraits. Et ce sont des portraits aussi bien d'individus que des portraits de villes, que des fragments de villes, que des fragments de corps, que même des portraits de groupes. Et dans cette galerie de portraits, on a une sorte de densité et de frontalité extrêmement, extrêmement forte. La composition des photographies est très simple. Un élément, un cadrage serré, concentré sur ce qui l'encadre, entoure, concentré sur un sujet qui occupe tout l'espace. Et les sujets photographiés sont totalement habités d'eux-mêmes, ce qui donne une sorte de puissance à notre regard face à eux, parce qu'ils sont pris dans leur entièreté. Et il y a d'ailleurs un travail vous aviez évoqué, Christophe, le noir et blanc, la qualité du noir et blanc, mais il y a un travail de lumière aussi très manifeste, qui participe d'un environnement contenu du sujet. Et ces images ne disent en fait rien d'autre qu'elles-mêmes. Et c'est très puissant en fait de se retrouver face à ces images-là, qui d'une certaine manière tiennent à distance, mais elles ne tiennent pas à distance parce qu'elles seraient dans un rapport de froideur. Au contraire, elles tiennent à distance parce qu'elles imposent une sorte de respect vis-à-vis du sujet photographié. Et ça, c'est très beau. Et ce qui est un petit peu étonnant, c'est que face à cette profonde présence des sujets photographiés. L'exposition, parfois, ramène le travail du Jard à des anecdotes biographiques qui sont un petit peu problématiques parce que, finalement, on n'a pas besoin de savoir qui c'est, où il se situe dans cette espèce de récit de la vie underground du New York des années 70 et 80, parce que le travail est plus fort, en fait, que ces anecdotes.
Sarah, il est la meilleure découverte, alors.
Oui, bah, disons qu'avec un tel titre, Speed of Life, qui veut dire je ne sais pas exactement quoi, peut-être la fureur de vivre, la vie effrénée, en connaissant aussi le milieu dans lequel évoluait Peter Ujard, c'est-à-dire le New York, justement, underground des années 70-80, avec une faune interlope d'artistes, de musiciens, mais aussi de transsexuels, de prostituées, de toxicomanes, et puis en sachant qu'il est mort également des suites du sida, on pourrait s'attendre, du moins je m'attendais, à des photos un peu crues, voire virulentes, un peu trash.
Il y en a certaines. Mais assez peu, finalement.
Mais au final, je trouve qu'il y a quand même, au contraire, j'irais une grande douceur qui se dégage de ces photos-là, comme si tous les sujets, quels qu'ils soient, étaient toujours enveloppés. Alors pourquoi? Parce que peut-être, en tout cas, c'est ce qui transparaît dans les portraits de Peter Ujard. Ce qu'on voit, à mon avis, c'est qu'il cherche pas tellement à traduire ce qui serait une vérité du sujet, c'est-à-dire son intériorité psychologique ou intime, mais plutôt à traduire une intimité, une relation intime entre lui et ses modèles. Et c'est là, il me semble, une caractéristique essentielle de son travail, puisque ça consiste pas, en fait, comme c'est le plus souvent le cas en photo, à faire oublier le photographe et son appareil photo, et ça consiste pas non plus à photographier les sujets de manière froide et distanciée comme des objets sculpturaux, ce que faisait Robert Mapplethorpe à la même époque et que connaissait Peter Ujard et qu'il n'aimait pas justement.
Il n'aimait pas du tout même.
Oui, pas du tout, et notamment pour cette raison-là. Donc au contraire, chez Ujard, ce qu'on voit, c'est qu'il s'agit toujours d'établir en fait les conditions d'une rencontre en passant parfois des heures à photographier ces modèles qui sont pour la plupart des intimes, des amis, aussi des amants, de manière à ce que se dégage une relation de complicité et de confiance comme une sorte, je dirais, de continuité entre le regard du photographe et le regard de la personne derrière l'objectif. Et ce qui est étonnant, comme le disait aussi Sally, c'est que ce continuum en fait sensible, affectif entre le photographe et ses sujets, on le trouve aussi dans ses photos d'architecture, justement, de paysages et d'animaux qui sont a priori des entités muettes, indifférentes à la présence de l'homme. Mais on retrouve en fait la même qualité enveloppante de la lumière qui crée ce lien entre le photographe et ses sujets, comme s'ils étaient tous pris dans une même texture sensible, qui serait celle, je dirais, du vivant, et dans laquelle on trouve dans le travail d'Ujard également la mort et la décrépitude. Puisqu'il y a beaucoup de photos également de quartiers délabrés de New York, il y a toute une série de photos aussi qu'il a prises dans les catacombes en Italie.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en vous écoutant attentivement tous les trois, vous avez des perceptions en fait très différentes, finalement, face aux photos de Peter Ujard. Donc qu'est-ce que ça dit de son travail même, selon vous, Christophe Rio, vous qui avez envie de sentir, alors où ça lui voit de la distance, on parle d'intériorité et surtout pas d'intériorité, donc comment vous comprenez cette différence de regard?
Oui, moi j'ai envie de toucher, par exemple, j'ai envie de toucher.
Non mais répondez à la question, comment vous entendez des perceptions aussi différentes?
Mais je pense que c'est peut-être la richesse de Peter Ujard, c'est la multiplicité des portes d'entrée. On citait tout à l'heure Mapplethorpe. Et on peut aussi penser au Warhol qui est en train à l'époque de se transformer, de se développer en business artiste aussi. C'est l'anticommercial et donc c'est les portes d'entrée de sa création, elles sont multiples et elles posent quand même la question du statut de l'œuvre, de la photo comme objet industriel, comme quasiment produit marketing chez certains de ses concurrents entre guillemets. Et donc je pense que c'est cette variété des portes d'entrée qui expliquent des points de vue très différents. Mais par exemple, quand il s'attaque à ces aventuriers de l'extrême, quand il les prend en photo allongés, je trouve que la couverture sur la célèbre chaise, on a envie de s'approcher de cet objet qui évidemment évoque aussi une dimension à la Joseph Beuys. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais la couverture est encore toute chose du corps.
Ouais, c'est une couverture posée sur une chaise. Il y a la forme sans doute du corps qui était dans lequel elle était enroulée, mais il n'y a plus personne.
Exactement. Et ce corps et cette personne a priori, c'est David Wojnarowicz, dont on va parler un petit peu plus tard. Donc tout est fait pour stimuler par des canaux extrêmement différents. Et moi, je trouve que c'est ça, la richesse du Jarre par rapport à certains de ses contemporains qui ont parfois eu beaucoup plus de succès que lui. Et ce qui est fou, c'est qu'il deviendra aussi un mentor pour un certain nombre d'individus, d'individualités.
Dont Voldarovitch, dont on parlera tout à l'heure
exactement,
aussi.
Exactement, mais il aura une influence très forte. Donc, je crois qu'il y a énormément de possibilités pour entrer dans cet univers. Il y a des photos qui donnent envie de s'approcher, effectivement, comme on l'évoquait au début, la superstar warholienne Candy Darling, avec une rose jetée sur son lit de mort. Et il ne faut pas oublier que le critique d'art Arthur Danto avait un jour avoué que c'était pour lui une des plus grandes photos du siècle. Donc, sans peut-être aller jusque-là, on a quand même une multiplicité de situations. On parlait tout à l'heure de New York aussi, de cette architecture, cet East Village délabré. On peut y voir énormément de choses. Et Sarah citait les animaux. Moi, je trouve ça fou, ces animaux qui donnent l'impression de poser, de regarder l'objectif et d'être pris, happé encore une fois. Donc la variété des sujets offre énormément de possibilités d'entrée.
Et peut-être que dans cette diversité de regards, dans laquelle je m'inclus évidemment tout à fait, il y a peut-être aussi le regard qu'on porte nous, ou la projection qu'on fait nous de New York underground des années 70-80. Le temps a passé, là on voit une ville qui n'existe plus, et depuis vraiment longtemps. New York a été, on le sait, nettoyée, javelisée. Bon, ça reste encore assez vivant, mais on n'est plus dans la même ville, et peut-être qu'il y a notre regard de 2019 sur ces photos-là, il est aussi chargé de cela, Sarah Hilermeyer.
Comme je vous le disais au début, moi j'avais plutôt l'imagerie que je pouvais avoir, elle était justement déjouée par ce que je vois de Peter Ujar.
Ah oui.
Donc ça répond pas à. Enfin, j'ai pas un regard qui vient.
Ça vous a surpris aussi dans cette dimension-là?
Moi, ce qui m'a surpris, c'est cette douceur dont je parlais et qu'on retrouve finalement dans le morceau de Lou Reed qu'on a entendu à l'instant. Donc voilà, j'ai pas vraiment une imagerie de New York, que viendrait confirmer ces images-là.
Ça, elle est bonne.
Il me semblait que la distance dont je parlais n'était pas tant la distance avec les personnages, mais plutôt la distance avec quelque chose qui serait une histoire en fait de chaque individu, ou une histoire de cette période, ou une histoire de la vie. Donc en fait, la distance, elle est vis-à-vis du récit qu'on peut projeter en fait sur les images. Et ce qui me semblait, pour revenir sur la question de l'intériorité, c'est que cet enveloppement des personnages dans leur propre cadre, cette manière qu'ils ont d'être contenus dans l'espace qui leur est donné, ils sont sans échapper en fait. Il n'y a pas d'hors-cadre dans ces images-là. Et c'est vrai que les photographies d'animaux sont pour ça assez incroyables, parce qu'ils sont pleinement en fait en face du photographe. Et ce que disait Sarah à propos de la relation qu'on peut supposer entre le photographe et le sujet photographié. Quel qu'il soit, que ce soit un corps, que ce soit un morceau de corps d'ailleurs, parce qu'il y a des jambes, il y a des pieds, il y a des fragments qui sont aussi présents, aussi là que le regard des animaux. Et cette question de la présence, justement, d'être là, il y a aussi suppose et inclut cette dimension d'être là à jamais, et la morbidité évidente des photographies, elle traverse en fait tout le travail. C'est-à-dire effectivement, on démarre sur les catacombes, sur une photo des catacombes à côté d'une photo de Stromboli qui est absolument somptueuse, en diagonale, avec ce motif de la diagonale aussi, ou de l'oblique qu'on retrouve dans plusieurs images. Et on finit aussi par ces catacombes. Et notamment, on l'a juste oublié, mais Maura Daivet montre une petite vidéo où elle relie à l'envers le livre Portrait in Life and Death, c'est-à-dire en partant de la mort pour revenir à la vie. Ce qui est assez beau, en fait, de finir l'exposition avec ça.
Alors, pour finir, quelques mots encore, peut-être, Sarah Hilermeyer.
Oui, alors peut-être juste sur l'action du portrait allongé, qui est effectivement un genre typique de chez Peter Ujar, qu'on voit aussi bien pour Suzanne Zontag, pour William Burroughs ou David Wojnarowicz, dont on parlera plus tard. Donc ce qui est très fort dans cette position-là, c'est qu'évidemment, à mon sens, elle participe en tout cas du sentiment d'intimité qui se dégage de ces photos, puisqu'il s'agit de corps qui se livrent, qui sont en quelque sorte dans une position d'abandon et de vulnérabilité. Mais ce que je trouve de particulièrement beau dans ces photos, qui sont pour la plupart, où on voit des individus qui sont pensifs, méditatif ou parfois même en train de dormir, c'est la façon façon dont Ujard, à ce moment-là, met sur un pied d'égalité, ce qui serait de l'ordre de la vie sensible, passive, des moments où on fait rien, et la, ce qu'on considère comme la vie active, intellectuelle, comme si les deux étaient intimement liés, ce qui est le cas, mais qu'on a tendance à oublier. Et donc, finalement, c'est là où ça va... Pour votre question, qu'est-ce que ça nous raconte de Peter Ujard, Speed of Life avec avec Ujard, c'est pas seulement vivre à 100 à l'heure ou être toujours dans l'action, ça peut aussi vouloir dire s'accorder des moments qui s'apparentent à du rien, mais qui sont des moments de passivité et de pensée.
Speed of Life, c'est donc en effet le titre de cette exposition au Jeu de Paume consacré à Peter Ujard qu'on peut voir jusqu'au 19 janvier, le Jeu de Paume qui a édité le catalogue de cette exposition. À force de parler de David Wojnarowicz, et on va en parler dans un instant, on parlera aussi de l'œil et la nuit et de figures d'artistes.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec « I wake up every morning in this killing machine called America » de Marion Semama et David Wojnarowicz, c'est une exposition en libre accès puisque c'est à la New Gallery. Née en 54 dans le New Jersey, Wojnarowicz a été un enfant battu, maltraité de bien des manières, avant de trouver dans un premier temps refuge à New York, refuge bien inconfortable puisqu'il vit dans la rue, il s'adonne à la prostitution pour subvenir à ses besoins, après avoir lui aussi suivi les cours de la Haute École des Arts et de la Performance de New York au début des années 70. Il va être l'un des piliers de cette scène underground de l'East Village, aux côtés de Nan Golding, Kissa Ring et quelques autres. Il réalise des films, il est photographe, il est peintre, il est performeur, il fait de la musique, on va en entendre dans un instant, avec le groupe Three Teens Kill Four. Wojnarowicz est également un écrivain prolifique, dont trois livres ont été traduits en France aux éditions Laurence Vialet. Bref, tableau, alors qu'il serait très incomplet si on omettait de signaler que l'artiste était aussi un homosexuel militant extrêmement actif contre la société américaine de son temps, et qu'il était, lui, toujours du côté des laissés pour compte. Marion Semama présente ici les photos de David Wojnarowicz issues de sa collection personnelle et des vidéos réalisées en collaboration avec lui. Mais d'abord, un peu de musique de Wojnarowicz. I walked to the bank, pushed through the hall north and passed the guard, and up past customers, up to the counters, and ladies and gentlemen, listen to me. This is a robbery. I sit down, stand up, lie down, your face to the ground, and stand up, your hands to the wall, and give me all your money. Give me all your valuables. Give me all your money. Give me all your valuables. Give me all your valuables. Did not count the saving pills. Ah, c'est l'époque, hein. Ça, c'est un disque de 82. Premier sentiment sur cette exposition, Sally Bonne.
Une œuvre révoltée et intense de la fulgurance.
Sarah Hilermeyer.
Eh bien, encore une très belle exposition pour un artiste trop peu connu.
Et Christophe Rio.
Il était une fois l'Amérique et l'amitié.
Sally Bonne, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, je l'ai un peu dit, mais qu'est-ce qu'on peut voir un peu plus précisément à la New Gallery?
Alors, effectivement, ce qui est montré, c'est un ensemble à la fois réduit et en même temps quand même important, qui est une collection qui appartient à l'une des amies de David Wojnarowicz, qui s'appelle Marion Semama. Et donc, on arrive dans l'exposition, on a un ensemble de photographies, dont deux séries, une qui s'appelle la Hand Series, qui est une série de photos, des gros plans sur des objets, horloges, pièces de monnaie, crucifixes, jouets d'enfants et autres qui sont envahis par des fourmis, d'où le titre de la série. Une autre série qui s'appelle la Sex Series et qui, comme son nom l'indique, montre sur des images qui sont des images d'urbanisme, de ville, de photos de trains, avions, scènes militaro-industrielles, des vignettes pornographiques, des images qui sont en négatif, pour montrer l'envers de la société, ce qu'elle ne peut pas voir, ce qui est notamment lié au sexe, à la guerre ou à l'urbanisme. Donc un ensemble de photos, des photos plus, enfin de moyen format, puis une série de photos de plus petits formats qui sont installés, une installation murale comme ça, qui est un petit peu, qui envahit un seul mur, puis aussi un tableau. Dans l'installation murale, on retrouve certaines des photographies qui sont exposées en un petit peu plus grand dans les Hand Series ou Sex Series. Ce sont des prises de vue qui mêlent des portraits, des corps nus, des vues étranges de corps, dans des feuilles mortes, des chiens dans le paysage, des montagnes, des collages d'images. Tout un ensemble composant un récit de l'étrangeté, la dérive, avec au milieu de cet ensemble une image aussi qui est un petit peu mise en exergue. Donc ça, c'est la première salle. Ensuite, on passe au sous-sol, ce qui... En fait, donne un petit peu l'impression qu'on va dans les sous-sols de l'œuvre de Wojnarowicz et de Marion Semama, puisque en dessous, on a donc deux salles. Une première salle où on a des photographies qui sont celles de Marion Semama qu'elle a prises dans les squats des bords de l'Hudson River où se retrouvaient David Wojnarowicz et un ensemble d'artistes, et aussi qui était un lieu de sexualité homosexuelle important. Et là, en fait, elle photographie les graffitis, les peintures qui ont été faites. On a des photographies en couleur, toute une série, et puis des photographies, les mêmes, parfois en noir et blanc. Et dans la dernière salle, on a des films collaboratifs qui ont été faits par David Semama et David Wojnarowicz. Marion Semama, pardon. Et David Wojnarowicz.
C'est bien de mélanger les noms et les prénoms, c'était joli.
Qui sont des films assez, assez incroyables, assez étonnants et très très beaux et très puissants aussi. Ce sont des performances filmées pour certaines, d'autres des performances filmées qui sont montées avec d'autres films de Wojnarowicz, qui sont un film, par exemple, un film en qui est complètement bleu et qui s'appelle When I Put My Hands on Your Body, qui est en fait des très gros plans de Wojnarowicz qui caresse, qui touche, qui lèche le corps d'un homme, et tout ça dans un montage comme ça d'images où les images sont accolées à parallèlement à ces performances où un texte est déclamé, des performances assez violentes. Mmh. Et autour, on a une série d'images qui sont aussi des posters faits en fait à deux aussi, entre Semama et Wojnarowicz, des jeux de textes, de photographies de Wojnarowicz lui-même, dont une aussi très puissante où on le voit assis sur une chaise avec les lèvres cousues par un fil rouge saignant qu'on retrouve aussi dans les films d'ailleurs.
Et sur certains tableaux, alors qui sont pas là, mais je l'évoquerai tout à l'heure, l'exposition qu'il y avait eu au Whitney Museum il y a un an et demi, est présentée au MUDAM au Luxembourg, je donnerai toutes les précisions dans quelques minutes. Sarah Hilermeyer, sur cette exposition.
Oui, ben, ce que je trouve particulièrement intéressant dans le travail de Wojnarowicz, c'est la façon dont en fait il explore et montre la dimension qui est à la fois personnelle et politique en fait du sida. Comme on le voit par exemple justement dans la série de photomontages dont a parlé Sally, qui s'appelle donc les Sex Series, qu'il a réalisé en 89 et qui montre des paysages, des vues urbaines, des réseaux routiers en négatif également, et sur lesquels sont intégrées des vignettes qui montrent, comme vous l'avez dit, des images pornographiques, mais aussi des images de guerre, avec parfois également des textes écrits par Wojnarowicz au sujet de la crise du sida des années 80. Et donc, juste à ce propos-là, je pense qu'il est important d'en mentionner quelques-uns de ces textes. Dans l'un d'entre eux, il explique par exemple que pour être éligible à des traitements du VIH, les compagnies pharmaceutiques de l'époque exigent des malades qu'ils aient un médecin attitré pour suivre leur traitement. Ce qui fait que, de fait, ça exclut des personnes qui doivent recourir à l'assistance sociale. Dans le même texte, il dit aussi que les hôpitaux publics refusent de diagnostiquer les malades qui n'ont pas d'assurance privée, ça va dans le même sens. C'est généralement des personnes qui appartiennent à des minorités sociales. Pourquoi ? Pour ne pas avoir à libérer des lits d'hôpitaux en cas d'urgence. Et donc, cette façon de montrer la dimension personnelle et politique du sida, on la retrouve effectivement, comme vous l'avez dit, dans les posters qu'il a réalisés avec Marion Semama, qui sont souvent des posters pour Act Up, dont un très connu où en fait on le voit assis sur une chaise, les lèvres cousues, avec le slogan qui est maintenant devenu connu, qui dit silence égale mort. Il y a également un autre poster où on le voit couché au sol, la tête qui repose sur un trottoir couvert de sang, avec un texte à côté, et où on peut lire à nouveau que, eh bien, dans certaines régions des États-Unis, il est possible légalement d'assassiner un homme et d'être libéré si vous dites que, eh bien, il est homosexuel et qu'il a essayé de vous toucher. Donc, ce qu'on voit ici, et c'est ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que c'est un art politique, pas seulement parce qu'en fait il énoncerait des messages politiques, mais aussi et surtout parce qu'il rend visible ce qui est invisibilisé par la société, comme le disait Sally, par un procédé qui est très simple en ce qui concerne effectivement le photomontage, qui consiste à révéler le négatif en fait, c'est-à-dire le refouler.
Christophe Rioux.
Oui, je crois que la force de l'exposition, elle réside dans une quasi-coupe géologique des années Reagan et de l'impact de ce qu'on peut appeler les Reaganomics, c'est-à-dire ce mot valise entre Reagan et Economics, et l'impact, c'est ce New York sans doute délabré, mortifère. Ce sont des années, ces années-là aussi, du roman American Psycho de l'écrivain Bret Easton Ellis, Trader le jour, Serial Killer la nuit, et on sent cette ambiance aussi de crime. Il y a des lieux où on nous raconte, alors parfois ce sont peut-être des légendes urbaines, mais on se demande là aussi quelle est la violence de cette société. Et il n'y a pas que les années 80 en fait. Il y a les années 80, mais ça annonce déjà la suite. Ça annonce le New York qu'on évoquait tout à l'heure, le New York nettoyé. C'est le New York de la théorie de la vitre brisée, de la politique de la tolérance zéro de Giuliani, qui deviendra le nouveau maire de New York. Et il y a dans l'exposition des signes. Il y a d'ailleurs une vitre brisée dans l'exposition, par laquelle, donc c'est une photo de Marion Semama au sous-sol, par laquelle on aperçoit une des tours jumelles depuis le Pier 34. Donc on a véritablement cette coupe. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que on a l'impression que d'être en permanence sous un microscope dans cette exposition, avec on l'évoquait tout à l'heure, des séries qui parfois ont des éléments qui ressemblent à des coupes microscopiques cette fois-ci. Donc on a à la fois une dimension qui est globale, avec le contexte général, et puis des choses qui sont liées à la vie des cellules. Il est obsédé par exemple par le chiffre 23, par les paires de chromosomes présentes dans le corps humain. Il est omniprésent, ce chiffre, dans l'exposition. Il est présent par exemple sur les 23 têtes de l'affiche réalisée d'ailleurs par Marion Semama, qui est à l'entrée de l'exposition, qui est un peu cachée, on la voit pas tout de suite, avec des têtes, 23 têtes qui entourent l'artiste. Et donc on voit bien qu'il y a cette double dimension permanente, cette circulation entre le macro et le micro. Et je trouve que c'est ça la réussite de cette exposition. C'est cette capacité à combiner, à articuler en permanence le micro et le macro.
Oui, parce que c'est une œuvre qui n'est quand même pas simple à appréhender, celle de David Wojnarowicz. Là, on en a un aperçu important, mais certes limité. Encore une fois, c'est vrai que j'avais eu la chance de voir l'exposition du Whitney Museum qui montrait les tableaux, les performances, les photos, les écrits d'une autre façon. Elle est présentée au MUDAM à Luxembourg en ce moment, avec ce même titre qui était « History keeps me awake at night », l'histoire me tient éveillé la nuit. Et on peut d'ailleurs voir les films de David Wojnarowicz et Marion Semama au MUDAM Auditorium pendant toute l'exposition. Mais c'est vrai que c'est une œuvre intensément politique, mais intensément artistique. Enfin, il y a quelque chose qui se combine chez lui dans une incandescence qui est quand même assez rare. Sarah Ellermayer.
Oui, bah tout à fait. Mais c'est vrai que en fait, ce qui traverse, qu'on voit dans cette exposition, ce qui traverse les œuvres de Wojnarowicz, c'est le fait, il me semble en tout cas, que les images et les photos, elles fonctionnent comme des mots, comme des symboles, qui sont agencés de manière à constituer des sortes de phrases flottantes et de manière aussi à proposer une écriture alternative de l'histoire. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans la série dont a parlé Sally, la série qui s'appelle Ants série. Ce sont donc une série de photos qu'il a réalisées entre 86 et 87 lors d'un voyage au Mexique, qui montre en gros plan des objets posés au sol, qui sont en fait des symboles de la culture américaine, comme par exemple un crucifix, des pièces de monnaie, un soldat en plastique ou un pistolet, mais aussi des images érotiques, comme par exemple un homme nu assis sur une table, une très belle photo. Et sur l'ensemble de ces objets, de ces images, il y a des fourmis qui courent et qui semblent pour leur part incarner quelque chose de l'ordre d'une contamination, comme une sorte de virus ou de vermine qui serait au cœur de la culture américaine, qui la rongerait de l'intérieur, mais qui attaquerait par la même occasion d'autres corps, et peut-être ceux justement des minorités gays. Et c'est donc ce qui est fort ici, je trouve en tout cas, c'est que Wojnarowicz utilise des procédés de l'art militant, c'est-à-dire le fait d'utiliser des images qui fonctionnent comme des symboles et comme des mots, mais de telle sorte qu'il dépasse en fait l'événement historique pour aller vers l'expression, en l'occurrence ici, d'une contamination qui peut être celle du sida, mais qui peut aussi être beaucoup plus large, qui peut être sociétale, au-delà des années 80 et 90.
Salut Bonne.
Oui, alors l'ensemble du travail, qui est, en tout cas celui qui est visible dans la New Gallery, c'est une partie qui manifeste quand même une sorte de rage contre la société.
Ah oui, c'est vrai, complètement.
Notamment dans ces performances imprécatives qui sont extrêmement impressionnantes et notamment qui nous permettent de comprendre aussi cette prolifération des insectes dans la série qui est au-dessus, parce que dans une des performances, il explique qu'il est lui-même en fait traité comme un insecte et qu'il se sent traité comme un insecte, c'est-à-dire aussi voué à une sorte de disparition rapide. Ce qui est pour poursuivre sur cette question de l'usage des mots hein, et de cette phrase flottante, parce qu'il utilise cette expression pour parler de son travail en disant que les photographies sont semblables à des mots et le travail littéraire en fait qu'il fait, qui se trouve aussi bien dans ses posters, qui se trouve aussi bien dans les performances, parce que les textes sont extrêmement puissants. Mmh. Et en plus, il les déclame avec cette espèce de puissance progressive où la voix est de plus en plus forte. Et moi, ce qui m'a quand même traversé dans l'ensemble de ce travail, cette partie-là de son travail, c'est que c'est évidemment un travail très singulier sur le désir, sur la mort, sur la pression et la violence des injonctions à la normalité, mais aussi une interrogation sur la manière d'habiter le monde. Et là, il m'a semblé que le motif de la maison, de l'habitation, d'occuper des espaces ou de pas pouvoir les occuper justement, en fait, traversait l'ensemble du travail. Donc c'est où et comment habiter, à la fois où placer nos corps dans l'espace de la ville. Ou c'est-à-dire aussi qu'est-ce que nous laisse comme espace la ville et les visions enfin les photos de ce Pier 34 là sur les baies de l'Hudson aussi sont très manifestes parce que ce sont des vues d'intérieur en fait hein. Et puis comment habiter le monde aussi en dehors des espaces que l'on nous assigne.
Oui, d'autant je le disais tout à l'heure hein, c'est vrai qu'il a vécu beaucoup dans la rue, David Wojnarowicz, la question de la maison elle est vraiment importante pour lui, mais la maison Amérique aussi, comment on peut pas y habiter et comment ce titre si on le traduit, je me réveille chaque matin dans cette machine à tuer qu'on appelle Amérique. Des mots encore, Christophe Rioux.
Oui, moi j'aimerais souligner le tragique de certaines œuvres, notamment la célèbre photo de Buffle qui tombe d'une falaise, qui est magnifique, qui a fait d'ailleurs l'objet d'une pochette pour un single de U2, One. Il y a aussi un grand tableau de 1985 avec un squelette d'animal, un monde qui explose, alors ça part de tous les côtés, des couleurs extrêmement fortes. Et puis... très petit et un peu caché, une sorte de montre à gousset qui compte le temps qui passe et qui indique effectivement l'heure. Et on voit évidemment que on a à la fois le basculement du sida et l'inexorable course contre le temps.
C'est la course dans cette émission aussi, vous l'avez bien compris. On parlait de l'exposition de Marion Semama et David Wojnarowicz qui se tient jusqu'au 14 décembre à la New Gallery 2 rue Borda dans le 3e arrondissement de Paris. L'exposition Wojnarowicz au MUDAM à Luxembourg, elle se poursuit jusqu'au 9 février 2020 et on peut aussi retrouver les films de Wojnarowicz et Marion Semama. C'est l'heure du coup de cœur délivré ce soir par Christophe Rioux pour une exposition qu'on a plus le temps de voir puisqu'elle se poursuit jusqu'au 29 janvier 2020. C'est dans la petite galerie du Louvre. De quoi s'agit-il, Christophe ?
Alors pour tout dire, dans cette petite galerie du Louvre, on est vraiment bien loin des expositions blockbusters ou des chefs-d'œuvre fétichisés et instagrammés. On est plutôt dans une sorte de cabinet de curiosité, d'alcôve, de sas. On est en réalité dans l'espace d'éducation artistique et culturelle du musée du Louvre, assez méconnu, je dois dire. L'idée générale de l'exposition Figures d'artistes, c'est d'explorer la manière dont le créateur est passé du statut d'artisan souvent anonyme à celui d'artiste célébré à partir de la Renaissance, à travers la question des signatures, des autoportraits, des vies d'artistes et du rôle de l'Académie et du Salon. En chiffres, ça donne quoi ? Ça donne 36 chefs-d'œuvre, rien que ça, sur 240 mètres carrés, répartis sur 4 salles. Et au-delà de l'arithmétique, la spécificité de la petite galerie, c'est aussi d'inviter à chaque fois un autre domaine de la création artistique. Après le cinéma, la danse, le théâtre, la bande dessinée, c'est au tour de la littérature de dialoguer avec les arts visuels dans l'esprit de l'ekphrasie katharsis, terme grec qui désigne la description minutieuse d'une œuvre d'art. Et là, on est gâté, puisque devant les chefs-d'œuvre de la petite galerie, on est subitement au cœur de la secrète alchimie entre les peintres et les écrivains, notamment à travers une série d'autoportraits puissants. Sur de grands cartels, François Cheng parle de l'homme qui tient un chardon dans sa main au sujet de l'autoportrait de Dürer, c'est magnifique. Marguerite Yourcenar est littéralement fascinée par Rembrandt, qui a passé tant d'années à fixer ses propres traits après ceux des autres. Philippe Solers décrypte l'autoportrait de Poussin comme une épitaphe secrète. Et on est, vous l'avez compris, dans l'esprit des phares de Baudelaire. Bref, on touche au sublime et on est bien loin de l'hystérie des foules. Il y a pourtant, dans un coin, le portrait d'une femme noire, Madeleine, peint par Marie-Guillaumine Benoît et rendu mondialement célèbre dans un clip de Beyoncé et de Jay-Z, tourné au Louvre et vu plus de 150 millions de fois sur les réseaux sociaux. Mais c'est toute la magie de la petite galerie où le tir groupé de chefs-d'œuvre interdit l'hystérie. Nous ne sommes donc pas dans ce qu'on appelle en économie l'effet Mathieu et qui, d'après l'évangile éponyme, désigne une polarisation sur une tête de gondole culturelle et peut se résumer par « on ne prête qu'aux riches », on est plutôt dans un parcours intime, modeste et hors du temps, dans le laboratoire de la création du plus grand musée du monde.
Ça s'appelle « Figure d'artiste », c'est à voir jusqu'au 29 juin, je prends mes désirs pour des réalités, 29 juin, c'est déjà pas mal, à la petite galerie du musée du Louvre.
France Culture, la dispute, Arnaud Laporte.
La dernière exposition, notre affiche, s'intitule « L'œil et la nuit ». Elle se déroule jusqu'au 9 février à l'Institut des Cultures d'Islam, l'ICEI, qui s'impose, exposition après exposition, comme un lieu d'art qui compte. On a souvent rendu compte justement des expositions qui y sont présentées. Cette fois, c'est une proposition de Géraldine Bloch, la commissaire de cette exposition, qui propose des œuvres de 18 artistes originaires d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe, qui interrogent chacun à sa façon le monde de la nuit, de la nuit sacrée de l'islam à la nuit rêvée du poète. Premier commentaire sur cette exposition de l'Institut des Cultures d'Islam, L'œil et la nuit, Sarah Hellermeyer.
Une exposition au parcours parfois un peu énigmatique, pour ne pas dire pas toujours très clair, mais qui présente néanmoins des œuvres intéressantes.
Christophe Rayon.
Un beau sujet, mais une petite nuit.
Sally Bonne.
Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie.
Elle est contente de ses présentations, Sally. Chaque fois, elle le dit avec un sourire. Il va falloir qu'on vous filme un de ces jours, méfiez-vous. Bon, Sarah Hellermeyer, un petit parcours de l'exposition.
Alors, tout d'abord, l'exposition, je ne sais pas si vous l'avez dit déjà, mais il y a donc 18 artistes.
Je l'ai dit, mais comme vous n'écoutez jamais ce que je dis, j'en ai pris mon parti, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Donc, elle s'organise en... Il y a trois chapitres qui se déploient donc sur les deux sites de l'Institut des Cultures de l'Islam. Le premier chapitre, il se trouve au rez-de-chaussée, au deuxième étage de la rue Stephenson. Il s'intitule « Les nucléaires » et il aborde, si j'en crois le cartel, le ciel étoilé comme surface de projection, avec par exemple au rez-de-chaussée une fresque murale peinte par Mourad Salem, qui figure sur un fond bleu étoilé, un thème fondateur du Coran, au cours duquel Mahomet aurait fait un voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem, sur une monture appelée Bourak. Monture donc plutôt fantastique, puisqu'elle a un corps de cheval ailé avec une tête de femme.
Elle est très pratique.
Voilà. Puis on passe au deuxième étage, où on découvre dans une salle de taille moyenne plusieurs œuvres, dont des constellations stellaires sur bois de Timon Assiri, qui sont selon lui donc des portraits sans visage en hommage à des observateurs du ciel. On trouve dans cette même salle, parmi d'autres choses, donc par exemple trois sculptures en granit noir, en forme de disque, intitulées « Triptyque soufique » et réalisées par Armen Agop. Et puis dans une seconde salle au deuxième étage, il y a également un film de Faisal Bakri, où il fait le récit en voix off sur des images d'archives de ses souvenirs d'enfance et des programmes télévisés qu'il regardait à l'époque. On passe ensuite dans le second bâtiment de l'Institut des Cultures de l'Islam, avec cette fois-ci deux sections. La première intitulée « Passagers de la nuit », qui est davantage politique. Elle réunit donc cinq artistes dans une salle tout en longueur, avec par exemple une photo dans un caisson lumineux de Dalida Boukriet. Une photo qui est assez ambiguë, puisqu'elle évoque à la fois un feu d'artifice et des images de guerre ou d'explosion. Puis, dernière section, appelée Eclipse, et qui, elle, est plongée dans une semi-obscurité, et qui porte donc sur la dimension plutôt onirique de la nuit, avec, par exemple, une grande photo de Mustapha Azeroual, qui montre le négatif d'un rocher de l'Atlas, qui ressemble à une sorte de diamant traversé de lumière. Et puis, pour finir, à l'angle de la rue Stephenson, il y a une fresque murale, réalisée par Minwan, et qui mêle donc du dessin, des écritures koufiques et des calligrammes, et qui représente sur un fond noir, il y a une lune, une lampe à huile et le visage d'un mathématicien qui s'appelle Alassane El Essam. Et cette fresque, c'est un hommage, peut-on lire à nouveau sur un cartel, à l'effervescence intellectuelle de l'Irak au tournant du 9e siècle, quand sensibilité scientifique et poétique ne faisait qu'un.
Ouais. Alors, pour cette exposition à l'Institut des Cultures d'Islam, Christophe Rioux.
Oui, je trouve d'abord que c'est un beau titre, L'œil et la nuit.
Un peu ambitieux peut-être.
Oui, très ambitieux.
C'est bien l'ambition, hein. Attention, je n'ai pas dit le contraire.
Et c'est aussi un beau sujet parce qu'il amène naturellement à une certaine transversalité entre religion, science, art et éventuellement littérature. Et j'aurais peut-être aimé que ces différentes étoiles composent une grande constellation, mais la littérature, en dehors du titre de l'auteur marocain Abdelatif Lahabi, est par exemple peu présente, même si leur titre est essentiellement métaphorique. Les mille et une nuits viennent rapidement à l'esprit. D'ailleurs, elles sont en consultation dans l'exposition. Le texte est en consultation. Et on sait qu'elles ont fasciné beaucoup de gens. Borges, hein, parce que ce livre mythique représentait pour lui l'infini. Mais l'exposition aurait peut-être gagné à avoir ce fil conducteur ou un fil conducteur et peut-être littéraire, en rajoutant cette dimension-là. L'astronomie est plus présente, évidemment, mais je trouve que les paysages célestes ou les firmaments ne sont pas une forme plastique très évidente au démarrage du parcours, comme ceux de Timon Asseri ou de Renaud-Auguste Dormeuil, qui possèdent néanmoins une dimension politique et géopolitique forte, avec la référence à des bombardements programmés de civils. J'ai été plus séduit par l'œuvre de Mourad Salem, qui revisite l'Isra, ce voyage du prophète, parce qu'il apporte d'emblée une touche de merveilleux et de raffinement. Et ça, c'était assez, sans doute assez inattendu. Je trouve que les vidéos, comme la vidéo de Faisal Bakri chez sa nuit du doute, c'est assez étonnant. On est un peu interloqué au départ. On suit l'histoire de cette télévision en noir et blanc et des réminiscences qui lui sont associées, comme le décollage de la fusée Ariane et des programmes télé très, très variés. Bon, et ça interroge quand même la frontière entre le réel et la fiction, le rapport à la vérité et à la croyance. Ça pourrait bien marcher, mais il n'y a pas ce fil et cette idée. J'aime beaucoup cette idée de constellation qui aurait pu éclairer cette nuit parfois un peu sombre.
Sally Bone, parce que c'est vrai que sur un intitulé pareil, c'est compliqué ensuite.
Oui, c'est un très beau sujet. Et évidemment, l'anecdote de la citation de Pascal dans mon introduction était à la fois anecdotique, mais en même temps, c'est de ça dont il est question, ou c'est de ça dont il pourrait être question à travers cet œil et cette nuit, c'est-à-dire la nuit aussi comme la manière qu'a l'homme d'appréhender la contingence de sa condition face à l'uniformité des espaces cosmiques et au flux du temps. Donc c'est un très beau projet. L'exposition elle-même présente quelques œuvres qui sont aussi très intéressantes et qui nous ont permis de découvrir certains artistes. Cependant, on peut regretter une sorte d'éclatement quand même des sujets. Alors, entre le profane et le religieux, entre le réel et l'imaginaire, en fait, on ne sait pas très bien où on est dans cette exposition. Et surtout, à force d'avoir voulu tout traiter de cette question de la nuit, au fond, on a que des toutes petites touches, parce que certes il y a l'astronomie, certes il y a l'imaginaire, certes il y a le religieux, certes il y a la trop embrasse mal étreint. Exactement.
Voilà, c'est une autre citation que je voulais voir.
Donc c'était quand même le propos de l'exposition, de mettre en regard ces conceptions mystiques, religieuses, à la perception profane de la nuit, de son mystère et du rapport à la connaissance. Alors, certaines œuvres sont assez belles. Il m'a semblé qu'il y avait quelques relations qui pouvaient se faire entre les œuvres, qui ne sont pas forcément d'ailleurs déclarées comme telles, mais notamment un certain rapport au langage. Alors, Christophe, vous évoquiez la question de la littérature qui aurait pu être un fil conducteur. Il m'a semblé que la question du langage, elle était dès l'entrée avec cette œuvre de Timo Nasseri, le panneau monumental qu'a évoqué Sarah en introduction, puisqu'il y est question de recréer en fait le paysage céleste au-dessus de Bassora au printemps 776 et d'un lexicographe qui, en scrutant les étoiles, avait considéré le premier dictionnaire arabe. Et cette œuvre-là, en fait, vient aussi raconter quelque chose peut-être de la question de l'écriture, qu'on retrouve aussi dans cette vidéo Henri Salah, exactement, la 4, où on se retrouve dans une pièce très 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 obscure, avec deux enfants qui répètent en fait des mots avec leur répétiteur, et sous une forme un petit peu répétitive et de scansion en fait dans la pénombre, et là encore à un tout autre endroit en fait on retrouve encore la question du langage. Alors il y a des œuvres qui sont très belles aussi dans leur très grande simplicité, notamment celle de Vladimir Skoda, qu'on voit assez peu, et qui est extrêmement simple, et qui peut-être qui est une des seules qui sort complètement des préoccupations, de répondre en fait à une des thématiques de l'exposition, c'est-à-dire c'est ni l'astronomie, ni la religion, ni le réel, ni l'imaginaire, c'est simplement la Lune, de manière hyper simple, c'est une boule devant un faisceau lumineux et qui en fait bouge au bout d'un fil, et donc on voit des croissants de lune, tous les croissants de la lune à une vitesse effectivement très rapide, apparaître sur le mur.
Sarah Hellermeyer, pour conclure cette séquence sur l'exposition L'œil et la nuit.
Je vais revenir sur une des œuvres dont parlait Christophe, qui sont celles en fait de Renaud Auguste Dormel, parce que donc comme je suis d'accord avec mes collègues, comme je le disais en préambule, le parcours il est pas toujours très clair. Néanmoins, il y a des œuvres qui sont vraiment intéressantes, dont justement ces deux reconstitutions de cartes du ciel étoilées. Donc au bas desquelles, donc contrairement à Christophe, je trouve que là pour le coup l'action du firmament marche très bien. Enfin, elles sont totalement hypnotiques ces photos. Et au bas de ces images, on voit des phrases en anglais que je traduis de la façon suivante. Pour la première, c'est le jour d'avant, système stellaire à l'Abja, le 15 mars 2003 à 23h59. Et la seconde phrase de la seconde photo, c'est le jour d'avant, système stellaire Bagdad, le 18 mars 1988 à 23h59. Et ce qu'il y a, c'est, donc on comprend évidemment que ce sont des images du ciel avant des bombardements en Irak. Mais ce que je trouve très beau dans ces photos, c'est qu'elles confrontent justement des tragédies humaines, des événements historiques et géopolitiques à ce qu'on pourrait nommer, pour reprendre à nouveau les termes de Blaise Pascal, l'éternel silence des espaces infinis, qui justement, c'est-à-dire en fait l'indifférence totale en fait du ciel et du firmament à l'égard de des contingences humaines.
Un big up à Blaise qui nous écoute tous les soirs ou qui podcast. Je sais que ça dépend des soirs. Le 15 mars 2003, c'est pas l'attentat en Espagne?
Ah peut-être, mais à l'Abja, c'est en tout cas, j'ai bien vérifié.
Ah, oui, c'est le ciel, d'accord. Oui, parce que je m'étais posé la question, je me disais, mais cette référence, ce ciel-là, je n'avais pas saisi, mais parce que sans doute qu'il faut regarder son fil d'actualité pour voir le 16 mars 2003, en effet, ce qui s'est passé dans ce lieu-là. Peut-être aurait-il fallu faire une exposition à épisode, la nuit sacrée, la nuit profane, la nuit astronomique. Bon, mais en même temps, l'ambition est là, et c'est... celle qui est défendue par l'Institut des cultures d'Islam pour l'œil et la nuit, à découvrir jusqu'au 9 février. Il y a également un catalogue qui est édité pour cette occasion. Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec David Dana qui nous a rejoint, qui va d'abord nous donner la réponse à la question posée d'hier, il va même nous rappeler la question dans son infinie bonté.
Quel est l'auteur du livre dont le spectacle « Reflet dans un œil d'homme » s'inspire librement? Et la réponse est Nancy Houston.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour le film « Le bel été » de Pierre Creton qui est sorti aujourd'hui dans les salles.
Quel groupe de rock français a écrit la musique du film « Le bel été » ?
Quel groupe d'excellent, l'excellent groupe de rock français qui a écrit la musique du Bel Été de Pierre Creton. La réponse, si vous l'avez, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales à auditeurfc@radiofrance.com.
Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et David Dana. Prise de son ce soir, Marie-Claire Oumabadi. Réalisation, Émilie Vanna. Rendez-vous demain à 19h. Pour une dispute qui sera consacrée à la littérature, ce qui fera plaisir à Christophe Rioux. Nous serons en compagnie d'Elisabeth Philippe, Laurent Nunez et Philippe Chevillet. Notre sommaire, trois magnifiques livres, Les Idiots d'abord de Bernard Malamud, Prince de César Eyra chez Christian Bourgois, et puis un recueil de nouvelles d'Alice Munro, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, aux éditions de l'Olivier. Et il y aura un coup de cœur de Laurent Nunez qui fera plaisir aussi à Christophe Rioux, puisque c'est le livre qui s'intitule Louvre de Jocelyn Guillois au Seuil.
France Culture, l'esprit d'ouverture.